Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 5 avril. Attention, manifestation des VTC aujourd'hui entre le pont Lafayette et le tribunal. L'école Frida Kahlo occupée depuis hier soir, trois familles dont des enfants scolarisés dans cette école se retrouvent sans solution d'hébergement. Coup de projecteur sur l'autre soi et l'autre toit. 10 ans se sont écoulés entre la première idée et la finalisation du projet. Et puis ce week-end, le festival Quai du Polar qui fête ses 20 ans.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le texte porté par les députés écologistes et visant à limiter la diffusion des polluants éternels a été adopté par l'Assemblée en première lecture. Victoire historique et collective, réagit Marie-Charlotte Garin, la députée écologiste de Lyon. Le texte vise notamment à interdire d'ici 2026 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits textiles et cosmétiques et de mousses anti-incendie contenant des PFAS. Les ustensiles de cuisine ont toutefois été exclus du périmètre d'application de la loi. Mercredi, salariés et direction de SEB avaient manifesté devant l'Assemblée, inquiets quant aux conséquences du texte sur leur activité. L'association des chauffeurs indépendants lyonnais, l'ACIL, organise une opération de sensibilisation sur le pont Lafayette ce vendredi, puis direction le tribunal. Les chauffeurs saisissent en effet les prud'hommes de Lyon pour requalifier la relation qui les liait à l'entreprise américaine en contrat de travail. Lors d'une première audience, il y a 2 ans, 139 chauffeurs avaient gagné en justice. Uber s'était vu condamné à leur verser 17 millions d'euros. Aujourd'hui, l'audience concerne 80 chauffeurs. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Boycottons Israël, boycottons BHL. Une centaine de personnes rassemblées hier soir devant l'entrée principale du parc Porte des Enfants du Rhône. Le collectif 69 de soutien au peuple palestinien avait appelé à manifester aux abords du cinéma de la Cité Internationale où Bernard-Henri Lévy tenait une conférence. Les récents propos du philosophe avaient été pointés du doigt. BHL affirmant qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza, pas de massacre délibéré des populations civiles. L'école Frida Kahlo dans le 7e est occupée depuis hier soir. Trois familles dont des enfants âgés de 3 et 4 ans scolarisés dans cette école se retrouvent sans solution d'hébergement. L'association Jamais sans toit avait alerté les pouvoirs publics dès le 21 mars lors d'un goûter solidaire.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
À Villeurbanne, depuis une vingtaine d'années, s'est développé un nouveau quartier, la Soie, autour de la station de métro éponyme. À deux pas des grandes entreprises et du centre commercial, on trouve aussi l'autre soie et même l'autre toit. Commençons par l'autre soi et poussons les portes du bâtiment patrimonial. C'est Harout Meksian, le directeur du CCO, qui nous sert de guide.
On voit un grand bâtiment sur 3 étages avec un esprit un peu art déco. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment-là, il y a les locaux de la ville de Villeurbanne avec une maison de service public. Il y a les locaux du CCO sur presque 800 mètres carrés avec des salles de réunion, du coworking, un amphi. Voilà. Cette grande serre au milieu qui est vraiment ce lieu de rencontre, d'échange que nous, on ouvre de manière inconditionnelle. Quand on regarde un petit peu plus haut, il y a 2 étages, c'est des résidences étudiantes et le dernier étage, donc géré par S Métropole Habitat. Et puis le dernier étage, c'est une résidence mère-enfant gérée par Alinéa. Et puis ici, là, t'as vu, donc il y a un grand espace vide encore qui est l'emplacement du futur restaurateur. La recette, ça va être qu'on soit, nous, à la hauteur de l'attente des habitants. Ça va être aussi que ces accès-là, ce bâtiment, puisse vivre et être pris en main par tous les usagers, par les assos, par les artistes, par tout le monde. La recette, c'est essayer de créer de la vie dans cet endroit. Et la vie, c'est avant tout des rencontres et c'est avant tout le fait que des personnes qui font pas la même chose puissent à un moment se rencontrer et dire, tiens, au final, on a peut-être des points communs et on va faire des trucs ensemble. C'est ce qu'on appelle la culture. Hein. On a tendance à oublier, mais la culture, c'est ce qu'il y a en commun entre des gens. Donc, c'est pas forcément l'art. L'art, c'est une forme culturelle, mais la culture, c'est avant tout faire société ensemble. Ce lieu-là, c'est la traduction de ça.
Le bâtiment patrimonial, c'est le bâtiment historique qui abrita successivement les travailleuses de l'usine Taz, une caserne, un hôpital, un IUFM et même l'école polytechnique. Valéry Giscard d'Estaing et usa ses fonds de culotte pendant la guerre. Mais aujourd'hui, le lieu a bien changé. Entièrement réhabilité, il accueille au rez-de-chaussée des salles de formation, des locaux associatifs, des espaces de coworking ou encore des bureaux partagés. Parmi les occupants, l'association Proxité. Nous avons rencontré Timothée Robin, son délégué régional.
Proxité, sa mission, c'est d'agir pour la réussite scolaire, l'orientation choisie et une insertion professionnelle durable de jeunes en difficulté. Et pour ce faire, on passe par le mentorat. Voilà, concrètement, on met en relation des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans avec des mentors actifs dans le monde du travail. L'idée, c'est de proposer un accompagnement lié à la scolarité. Viennent ensuite les questions d'orientation, donc comment le jeune peut réfléchir avec son mentor sur ce qu'il veut faire plus tard. à travers l'expérience aussi du mentor. Et ensuite, pour les plus grands, c'est plutôt des questions liées à l'insertion professionnelle, qui peuvent être de la recherche d'emploi, de la recherche de stage, d'alternance. Et du coup, le mentor accompagne le jeune dans cette démarche. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des liens entre des gens qui, a priori, ne se connaissaient pas, qui peuvent être d'origine différente aussi, mais qui par contre peuvent s'apporter mutuellement. L'autre soi, c'est vraiment un lieu du coup au cœur du carré de soi, où il y a à la fois du coup des jeunes, où il y a à la fois des entreprises. Donc c'est vraiment un lieu propice au développement de notre action, et qui plus est ici, qui est voilà un lieu très beau, très bien refait, chargé d'histoire, et puis au sein de la communauté du CCO, qui du coup partage aussi les mêmes valeurs que nous sur les questions de lien social, rencontre.
En étage, la résidence Ottawa et ses 67 logements étudiants, 7 sont gérés par Forum Réfugiés. Au dernier étage, l'Auvent, un centre pour jeunes mamans, nous y avons croisé Zenaba.
Par rapport à mon fils, j'avais des difficultés, j'avais besoin d'un soutien, des conseils, parce que tant que je suis une jeune maman, j'ai 22 ans, c'est mon premier enfant. Je ne sais pas comment faire au début, mais là, depuis que je suis ici, ils m'ont donné trop de soutien, des conseils pour être bien avec mon fils. Par exemple, ici, on a accompagnement en papier, comme des papiers et d'accompagnement pour travailler avec mon fils. J'habite ici. C'est un lieu de vie, ouais. C'est un lieu de vie. On a des petits appartements. Il y a la chambre pour mon fils, pour moi, un lieu de cuisine, un lieu de vie. On est bien ici. On est bien entouré. Moi, je suis arrivée à l'ancien foyer qui n'était pas comme ça, qu'on était tout en collectif. Même le collectif, c'est bien, c'est pas que négatif. Hein.
L'Auvent est géré par Alinéa, le SAMU social. Pascal Izoard-Thomas, directeur d'Alinéa.
Nous avons construit et conçu un centre maternel. C'est le seul centre maternel exclusivement dédié aux femmes qui existe sur le territoire de la métropole. C'est un centre maternel qui s'adresse aux femmes souvent victimes de traite, notamment la prostitution, qui essayent de sortir des réseaux, qui sont à la rue, qui subissent des violences à la rue. Donc le pari pour ces publics, pour lesquels, lorsqu'elles sont enceintes, la plupart du temps, la seule issue, c'est le placement de l'enfant. Le pari qu'on fait ici, c'est de leur offrir un cadre d'habitat très digne, de leur permettre de se reconstruire, de se reconstituer, d'accueillir l'enfant, de devenir des mères et de se projeter dans un futur à travers un lieu qui est très beau et qui est très ordinaire. Il n'est pas ostentatoire, hein. Des belles surfaces avec des beaux appartements. Et donc, on travaille à cette réinsertion de ces mamans qui, à la peine d'avoir subi la violence de la rue, risquaient d'avoir la double peine de la séparation de leur enfant.
C'est important, cette mixité ici au sein de ce bâtiment?
Oui, parce que quand on dit qu'on offre de l'ordinaire, en fait, on permet aux gens, non seulement à travers le logement, de se rendre compte qu'elles peuvent avoir accès à des choses qui correspondent d'habitude à monsieur et madame tout le monde. Donc ça leur redonne confiance. Et le fait aussi d'avoir des voisins qui les regardent non pas comme des parias, mais comme des voisins, bah, ça change aussi beaucoup de choses. Cette idée du lien avec tout ce que le CCO propose, avec des habitants, à travers des activités qui sont menées, notamment dans les tiers-lieux ou dans la serre qui est juste derrière nous, eh bien, en fait, elles sont habitantes de ce quartier, des citoyens, des citoyennes comme tout le monde. Et ça aussi, c'est très puissant en termes de levier de réinsertion.
Entre la nouvelle salle de la Rayonne et le bâtiment patrimonial, l'autre toit, TOIT. Un programme de 50 logements comprenant aussi 800 m² d'activités économiques et 120 m² de tiers-lieux. Il va notamment accueillir le GRIM qui propose des formations aux métiers techniques du spectacle. Mais l'autre toit, c'est avant tout l'accession sociale pour tous, comme nous l'explique Arnaud Cécillon, directeur de Ronson Habitat.
Ce sont des logements en accession sociale sécurisée. D'ailleurs, parmi les 50 logements, il y en a 20 en location-accession. Tous ces logements ont la particularité d'être à des prix d'acquisition abordables avec des dispositifs de sécurité pour permettre à des personnes aux revenus modestes de pouvoir accéder à une propriété encadrée mais sécurisée. Par exemple, il y a 20% de ces appartements qui ont trouvé preneur auprès de ménages qui étaient précédemment locataires de logements sociaux, donc qui ont pu libérer un logement locatif social et accéder à la propriété. On voit également qu'on a 15% qui précédemment cohabitaient chez leurs parents ou des fois chez des amis, des situations compliquées, subies. Et là, ça leur permet d'accéder à la propriété et souvent pour la première fois dans leur parcours.
10 ans se sont écoulés entre la première idée et la finalisation du projet de l'autre soi. Au final, 293 logements, une salle de concert, des espaces de travail, des ateliers artistiques et un parc public. L'utopie du premier jour est restée intacte, mais elle est désormais palpable. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne.
L'idée, c'était de se dire qu'il fallait que ça soit un lieu de démonstration de comment on fait la ville, mais sur plein de sujets. La ville pour tout le monde, avec des tarifs, avec des systèmes de logement qui sont abordables, la ville humaine, joyeuse, vivante avec la culture, et puis aussi la ville de demain durable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on économise les ressources. Et là, c'est vrai que ce bâtiment, il est exemplaire sur le réemploi des matériaux, avec des planchers qui viennent d'un autre quartier, d'un immeuble qui a été démoli, avec le fait de préserver la structure béton et de pas la recouvrir avec des nouveaux matériaux parce qu'en fait ça se suffit en matière d'isolation. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été pensées sur demain, comment est-ce qu'on va continuer à construire dans un monde où la ressource se raréfie, dans un monde où il y a le réchauffement climatique, et donc c'est aussi démonstrateur de ça, et ça fait partie de l'utopie réalisée. Il y a 100 ans, quand on construisait, l'utopie c'était l'hygiénisme, c'était l'accès finalement à l'eau courante, à l'électricité. Aujourd'hui, l'utopie c'est de se dire comment est-ce qu'on construit pour préserver la planète, tout simplement. Le nouveau projet autour de ACI, c'est pas neutre si on met un parc en plein milieu. C'est aussi une manière de dire aux habitants, bien sûr, il y a du logement, bien sûr, il y a de l'habitat, mais il y a aussi des nouveautés pour vous qui habitez, qui êtes déjà là. Je crois qu'il y a cette question-là, en fait. Comment est-ce qu'on ne construit pas contre celles et ceux qui sont déjà là, mais avec eux et pour eux? L'important, c'est de se dire dans ce type de projet que faire du logement pour les plus modestes, c'est une opportunité de développement pour un quartier. Ce n'est pas un truc qu'on cache, ce n'est pas un truc qu'on planque, ce n'est pas un truc avec lequel il faut qu'on s'arrange, entre guillemets, comme si c'était gênant. Non, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire d'avoir des mamans qui étaient à la rue et qui trouvent un lieu pour leur enfant, parce que à la fois c'est bien pour elles, c'est bien aussi pour le budget de l'État, ça coûte moins cher que les gens soient logés plutôt qu'ils soient à la rue. Et puis ça permet aussi de faire des projets qui sont beaux, et ça permet de transformer une dynamique de quartier. Donc c'était aussi ça la démonstration. Faut arrêter de penser le logement social comme une espèce de verrue ou un truc qu'on fait en plus parce qu'il faut bien le faire. Non, on a besoin de logements abordables pour tout le monde, et à partir du moment où on a cette conviction politique, on en fait une opportunité de développement territorial. S'il n'y avait pas eu les logements, il n'y aurait pas eu la culture. S'il n'y avait pas eu la culture, il n'y aurait pas eu l'esprit qu'on voit, qu'on trouve en arrivant. Donc tout ça se tient.
Reste à construire une résidence à Ralis et à aménager le grand parc à l'arrière du bâtiment patrimonial. Ce sera le premier parc autogéré de France. Il devrait ouvrir en 2026. Attention, le réseau TCL perturbé ce vendredi en raison d'un mouvement social. Sont concernées la ligne T7, les lignes de bus C15E et N83 qui ne circulent pas. D'autres lignes de bus sont allégées. Pour tout renseignement, tcl.fr. Une idée de sortie pour ce week-end, la Biennale des métiers d'art avec un nouveau lieu cette année. Les explications avec Gaël Bossier.
Mirabilia Lyon est née de la volonté d'un groupe d'amis passionnés par les métiers d'art. Ce salon, proposé en biennale, a ouvert ses portes jeudi 4 avril et se clôturera dimanche 7 avril. C'est la seconde édition et pour cette année, le Carré Fourvière, juste à côté de la basilique, propose un écrin remarquable pour les 32 artistes exposants. J'ai rencontré Françoise Souchaud, une des organisatrices de l'événement.
C'est conçu un peu comme une exposition. Enfin, quand je dis exposition, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. Mais là, les artistes, ils font pas de la représentation, ils sont là pour vendre leurs œuvres. Mirabilia Lyon. Je voulais absolument donner une identité très forte à ce salon. Alors, la première édition, nous l'avons fait au Palais de Bondy. Le Palais de Bondy, maintenant, a une politique différente, donc exposera le papier, le dessin, la photo et les arts numériques. Mais nous ne sommes pas mécontents d'être ici parce que de toute façon, la ville nous accompagne largement. Ils ont été très généreux. Ils nous ont accompagnés financièrement. Donc, on remercie évidemment la ville, plus tous nos sponsors, plus les fondations. Il y a la Fondation Saint-Irénée, on a la Fondation du patrimoine. On a été énormément aidés financièrement. C'est important. 32 artistes, des spécialités très différentes. Donc, certains ont fait les grandes écoles, comme Boulle, Penningen, l'école de Sèvres, l'école de Strasbourg. Il y en a qui n'ont pas du tout fait d'école, mais qui ont, si vous voulez, saisir la matière et en faire quelque chose. Parce que maîtriser la matière, on peut faire les grandes écoles, maîtriser la matière et n'avoir rien à dire. Tandis que là, il y a vraiment une ouverture sur des autodidactes, mais qui ont avancé dans les métiers de la main, hein, c'est le geste, hein, qui sont très importants et qui sont absolument excellents et qui proposent des œuvres uniques. Il y a un autre designer qui est designer en céramique, qui travaille la 3D avec des machines très spéciales. On a la marqueterie de paille, parce qu'à Lyon, on a quand même la plus grande, elle qui est meilleure ouvrière de France et entreprise du patrimoine vivant, qui s'appelle Manon Bouvier. Nous avons bien sûr des grandes, on va dire, des gens très connus comme Vincent Bride en verre, Laurence Opperman en bijoux. Fier, très fier de présenter ces artistes à Lyon. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris. Voilà, Lyon existe. Parce qu'il est sûr et certain que nous ferons dans l'année blanche, puisqu'on est en biennale, en 2025, on fera un événement de très grande qualité, mais plus petit. Peut-être plus intime, et on le fera certainement, si tout se passe bien, à la Villa Gilet.
C'est un salon à découvrir cette fin de semaine jusqu'à dimanche. Les pièces proposées sont sublimes et les artistes présents pour répondre à vos questions sur les techniques utilisées. Pour en savoir plus, salonmirabilia.fr. Rendez-vous jusqu'à dimanche au Carré Fourvière, juste à côté de la basilique.
Merci Gaëlle. Un mot de basket en Euroleague, l'incroyable victoire de l'ASVEL à Valence. Les Villeurbanneaises l'ont emporté hier soir en Espagne 98 à 69, un résultat de bon augure pour la fin de saison. Le festival Quai du Polar fête ses 20 ans ce week-end, 135 auteurs, 90 000 visiteurs et 80 rencontres ou débats, des stars internationales mais aussi des Lyonnais, comme Fabrice Papillon, Sonia Delzongle, Petroni Rostagna ou encore François Medline. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition.